Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France est le plus gros producteur de déchets plastiques en mer Méditerranée. Elle y déverse 10 000 tonnes de plastique chaque année, selon WWF. La faute à qui ? Nous tenterons de comprendre en se penchant sur le rapport de l'ONG.
Nous entendrons aussi certains eurodéputés élus de gauche ou écologistes. Ils refusent de participer à une journée de réflexion sur la place de la France dans l'Union. Elle est organisée aujourd'hui par le gouvernement.
Comme promis, Theresa May s'apprête à démissionner ce vendredi. Encore faut-il lui trouver un successeur ? Ce n'est pas chose rapide, vous l'entendrez.
Et dans ce journal, reportage au Soudan où les hôpitaux manquent de sang pour soigner les blessés, mais face à la répression de l'armée, les Soudanais n'osent plus sortir de chez eux pour venir aider.
Après ce journal, la chasse aux maires de droite, à moins d'un an des élections municipales, elle est ouverte cette chasse. Stéphane Robert nous l'expliquera dans son billet politique. Alerte pollution. La mer Méditerranée est 4 fois plus polluée que le 7e continent de plastique. L'ONG WWF, à la veille de la Journée mondiale de l'océan, publie un sinistre rapport ce matin sur une décharge à ciel ouvert. Chaque année, 600 000 tonnes de plastique, de déchets plastiques, sont rejetés en Méditerranée par les 22 pays qui bordent la mer. Ludovic Frère-Escoffier est responsable du programme Vie des océans au WWF France. Il nous explique les résultats de cette étude.
C'est une décharge à ciel ouvert, en effet. C'est l'équivalent de 34 000 bouteilles de plastique par minute qui sont déversées dans la Méditerranée. Donc la Méditerranée est au bord du burn-out, elle est à bout de souffle. La pollution ne cesse d'augmenter avec un énorme problème de collecte de déchets, en particulier dans certains pays comme en Égypte, en Turquie ou en Italie.
Et en France également. La France qui est le pays le plus pollueur des 22 pays étudiés, la France rejette 80 000 tonnes de plastique par an, dont plus de 10 000 en Méditerranée. Bonjour Véronique Reverotte.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste des questions environnementales à France Culture. D'où vient, Véronique, ce plastique ?
Alors, le gros de cette pollution plastique made in France provient des activités côtières. 80% des 10 000 tonnes de plastique qui finissent en Méditerranée, des bouteilles, des barquettes de frites, des emballages de crème solaire, eh bien, sont liées aux activités de tourisme et de loisirs de bord de mer et à une mauvaise gestion aussi de collecte de ces déchets. Cette concentration de plastique est particulièrement élevé près des villes de Marseille, de Nice et en Corse. En cause aussi, mais dans une moindre mesure, les activités de pêche, d'aquaculture et le transport maritime, les filets de pêche, les casiers à crabes, les containers constituent une grosse partie des débris retrouvés. Le rapport du WWF met l'accent sur le fait que dans les départements méditerranéens, le système de recyclage est moins performant et dans certaines zones comme Marseille et la Corse, eh bien les déchets en général, et plastique en particulier, finissent dans des décharges à ciel ouvert. Et puis, il y a aussi les plastiques qui arrivent en mer par les fleuves qui charrient 12% de ces déchets plastiques. Outre un impact sur notre santé, la faune et la flore, cette pollution plastique a un coût important, souligne le WWF, à cause de débris de plastique qui se retrouvent dans les moteurs des bateaux, les filets de pêche, dans les pales d'hélice des bateaux, eh bien, il est dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros à réparer ces dégâts causés par le plastique qui s'immisce partout. Aux solutions qui consisteraient à mieux recycler ou à aller ramasser le plastique en mer, le WWF préfère de loin la plus efficace, interdire encore, réduire aussi en France la production et la consommation de plastique. Pourquoi pas aussi un système de consigne du plastique.
Merci beaucoup Véronique. Reberotte, ce matin pour France Culture. Les députés donnent leur accord à un assouplissement de la limitation de 80 km/h sur les routes secondaires. En plus des conseils départementaux, les maires pourront également décider de revenir sur cette mesure décriée. Elle est entrée en vigueur il y a maintenant un peu plus d'un an. Patrick Septrier préside le conseil départemental de Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Et pour lui, c'est donc évidemment une bonne nouvelle et il se tient prêt.
Je pense que c'est une mesure de bon sens qui va permettre, sans se mettre la sécurité, de pouvoir circuler dans des conditions, je dirais, tout à fait normales et en toute sécurité sur certaines portions de nos routes départementales. Après, il y a peut-être des études à faire et également sur les routes nationales. Nous avons déjà lancé, nous, un certain nombre d'études. Et en fonction des critères qui vont être adoptés pour pouvoir repasser à 90 km/h, eh bien, nous mettrons en pratique les choses. Donc, je dirais que nous sommes prêts. En fonction de ce que va dire la loi, ça pourrait aller entre 1000 et 2000 km de route que nous pourrions remettre à 90 km/h.
Alors là, il s'agit de rouler au maximum à 25 km/h en respectant les règles. Les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses dans les grandes villes et surtout à Paris. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, veut donc interdire leur stationnement sur les trottoirs. Cela passera par un arrêt préfectoral. Paris compte aujourd'hui 12 opérateurs qui ont mis en circulation plus de 20 000 trottinettes électriques avec un objectif de 40 000 engins l'année prochaine. Le gouvernement, à l'initiative du Premier ministre, souhaitait souder les 79 eurodéputés français élus dimanche dernier, de tous bords confondus, élus le 26 mai dernier lors des élections, sorte d'équipe de France des eurodéputés, en commençant par une journée d'échanges. Elle est organisée ce vendredi, mais il n'y aura probablement pas tout le monde. Une partie de l'opposition boycotte le rendez-vous, Rosalie Lafarge.
Tout est parti de cette petite phrase lâchée par la secrétaire d'État aux Affaires européennes il y a quelques jours, Amélie de Montchalin, pour la création d'une équipe de France des eurodéputés français.
Alors Édouard Philippe, désolé, mais c'est pas Didier Deschamps.
Leïla Chebbi est au Parlement européen pour la France insoumise.
Nous, on considère qu'on n'a pas de consignes à recevoir de la part du gouvernement. On est bien conscient de l'importance de préserver les intérêts de la France, mais on ne considère pas que ce soit le cadre adapté.
Même chose pour les écologistes. Karima Delich et les eurodéputés verts jugent le rendez-vous précipité et refusent surtout catégoriquement l'option d'une équipe de France.
Nous ne sommes pas les coéquipiers du Front National, ni des Républicains ou les autres, mais nous sommes constructifs et nous avons un mandat de 5 ans. Et nous nous tiendrons à la disposition du ministère des Affaires européennes pour pouvoir justement discuter et dialoguer de points clés et de sujets déterminants.
Un avis partagé par les socialistes et Place Publique. Ils enverront malgré tout l'eurodéputé Sylvie Guillaume par courtoisie républicaine, tout comme les LR, dont seul François-Xavier Bellamy devrait être de la partie, au moins pour le discours du Premier ministre à 9h30. Les élus du Rassemblement national, eux, ont décidé de jouer le jeu à l'image d'Hervé Juvin.
Au-delà des positions qui nous séparent, il y a des sujets d'intérêt national sur lesquels les députés représentant la France au Parlement européen doivent pouvoir coordonner leurs actions.
Mais même au sein du RN, si beaucoup semblent vouloir prêter une oreille attentive aux quelques mots d'Édouard Philippe, ils sont moins nombreux à être convaincus de la pertinence des ateliers proposés ensuite autour de différents ministres ou anciens eurodéputés. Certains envisagent de siffler la fin du match un peu plus tôt que prévu.
Elles vont réellement jouer un match aujourd'hui. Elles se réunissent pour former effectivement une équipe de France. Je vous parle football et Coupe du Monde féminine. Cette Coupe du Monde se déroule en France. Premier match des Bleus face à la Corée du Sud ce soir. 24 équipes au total participent. L'occasion, même si cela pourrait être fait aussi toute l'année, l'occasion d'évoquer aujourd'hui le sport féminin et le sexisme ambiant. Pour le grand reportage de la rédaction, Guillaume Batin s'est intéressé à ces sportives qui doivent se battre pour trouver leur place. Il a notamment rencontré Laure Baudrit, l'une des attaquantes de l'équipe de France de hockey sur glace. Son mètre 90 n'est aujourd'hui plus un problème.
C'est sûr qu'on est des athlètes. Notre corps, c'est notre outil de travail. Oui, on le transforme, mais parce qu'on veut le transformer. On s'entraîne, on fait de la prépa physique, on va à la salle de muscu. Un homme qui transforme son corps, on trouve ça beau. Un homme musclé, on trouve ça beau. Mais une femme musclée, des fois, c'est encore un peu difficile. Mais il y a des femmes qui sont musclées et qui sont très belles. C'est juste un peu culturel aussi. C'est des stéréotypes. Mais aujourd'hui, oui, on transforme notre corps. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a des joueuses qui ont des plus grosses cuisses que la moyenne des femmes. Mais quand en squat, tu soulèves 120 kilos, forcément, tu prends du muscle. Il faut juste être bien avec son corps, je pense. Et ça, c'est pareil, c'est des choses avec le temps. Tu t'y fais. Et aujourd'hui, il y a peut-être certaines filles qui ont du mal un peu, qui disent « Oh, moi, je veux pas faire trop de muscu, j'ai pas envie de ressembler à un mec. » Avec la prépa physique qu'on fait aujourd'hui, je me rends compte que j'ai passé un cap physiquement et que ça m'aide sur la glace. Donc j'ai pas honte de muscler mon corps et d'être une athlète. Et en fait, quand on me voit, on me demande souvent « Vous faites du sport ?» Oui, c'est ça, mais parce que ça se voit sur moi et au contraire, j'en suis fier, je pense.
Jamais plus sans elle. Voici le grand reportage de Guillaume Batin réalisé par Annie Bro. Vous pouvez le découvrir à partir de 17h sur soir sur France Culture. Un reportage suivi d'un débat présenté par Aurélie Kiefer.
Eh bien, il est 8h09 sur France Culture et c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal au Royaume-Uni. C'est aujourd'hui que Theresa May démissionne officiellement.
Cela se fera par un simple échange de lettres avec le président du comité 1922 qui est l'organe régulateur du parti conservateur en Grande-Bretagne. En pratique, cependant, cela ne va pas changer grand-chose car il faut encore désigner son successeur. Le processus de désignation pourrait prendre 3 ou 4 semaines, peut-être même plus, Antoine Géniaud.
Le départ de Theresa May, c'est un peu comme le Brexit. La première ministre annonce qu'elle quitte le gouvernement, mais dans les faits, personne ne connaît la date à laquelle elle va s'en aller. pour quitter Downing Street, il lui faut aller voir la reine avec le nom de son successeur. La liste des candidats sera connue mardi matin, mais ils sont déjà plus d'une dizaine à vouloir prendre sa place. De la plus eurosceptique, Esther McVie, qui réclame une sortie immédiate de l'Union européenne, au plus pro-européen, Sam Gyimah, qui demande un second référendum. Au milieu, plusieurs anciens ministres, comme Boris Johnson, et trois membres actuels du gouvernement espèrent tirer leur épingle du jeu. Pour avoir le droit de se lancer dans la course, ils doivent être soutenus par 8 députés minimum. Les parlementaires votent ensuite à plusieurs reprises. Ils éliminent à chaque tour le candidat qui recueille le moins de voix. Et ce n'est que lorsqu'il en reste 2 que les militants, à leur tour, sont autorisés à donner leur avis. Le processus est long et complexe. Le nom du prochain Premier ministre sera probablement connu autour du 20 juillet, au moment où les députés sont censés partir en vacances.
En Grande-Bretagne, toujours, le parti du Brexit de Nigel Farage s'incline face au parti travailliste après des élections partielles dans l'est du pays hier. C'est un revers pour le parti du Brexit, fondé il y a quelques mois, arrivé largement en tête du scrutin européen fin mai. Il échoue donc à remporter son premier siège au Parlement britannique. 4 jours après une répression meurtrière de la contestation populaire à Khartoum, les Soudanais racontent. Ils décrivent un climat de peur dans le pays qui dure aujourd'hui encore. Les hôpitaux de la capitale sont remplis de blessés qui ont besoin de transfusions sanguines. Ce n'est pourtant pas simple, comme l'a constaté Sébastien Nemeth.
Malgré l'urgence, peu de Soudanais sont venus donner leur sang aujourd'hui. Les paramilitaires sont imprévisibles et partout en ville, Ahmad Mohamed Al-Hassan a bravé sa peur pour venir faire un don.
Depuis lundi, je reste autour de la maison. Après ces horreurs, on a tous peur. Je suis venu seul pour vérifier si le trajet était sécurisé. Je reviendrai demain avec 4 personnes.
Les détails du massacre de lundi commencent à émerger. Les crimes commis ont choqué partout dans le monde. Abou Siddiq est donneur régulier. Il n'a pas hésité.
Les personnes qui ont besoin de sang ont mis leur vie en jeu pour ce pays et pour un meilleur futur. Pas seulement pour eux, pour moi, mes enfants. Il fallait le leur rendre.
Soudain, un militaire s'avance. Il n'appartient pas au FSR, mais à l'armée de l'air. Il donne un faux nom et malgré son malaise évident, il accepte de parler.
J'ai donné récemment, donc je ne peux pas encore le refaire. Mais j'ai vu des policiers et des soldats venir. Lundi, c'était un raid contre des délinquants du quartier Columbia. Les voyous ont fui vers le sit-in et les soldats les ont stoppés là-bas. Mais seuls ceux qui ont participé peuvent confirmer. Moi, je n'y étais pas.
Une attaque contre Columbia qui a dégénéré, c'est la version vendue par le conseil militaire pour expliquer le massacre. Un patient ayant entendu la conversation affirme que le soldat s'est fait laver le cerveau.
Sébastien Nemeth, correspondant de RFI à Khartoum pour France Culture. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer d'ici la fin du mois sur la prolongation ou non du mandat de la MINUSMA au Mali et ses 15 000 casques bleus déployés aujourd'hui sur le terrain. Une présence internationale alors que le secrétaire général des Nations Unies affirme qu'il existe un fort risque d'atrocité à venir dans le pays, le Mali. La violence y est en effet quotidienne, Valérie Crova.
Le diagnostic que pose Antonio Guterres sur le Mali n'est pas exagéré. Le secrétaire général de l'ONU craint un risque d'escalade dans un pays livré à une multitude de groupes d'autodéfense. Ces milices se substituent à un état défaillant, incapable d'endiguer ce déchaînement de violence qui a atteint son paroxysme avec le massacre de Gossagou. Qu'elle soit l'œuvre de groupes djihadistes ou le fruit de règlements de comptes entre Peul et Dogon, ces violences se poursuivent. Yvan Guichawa est maître de conférence à la Bruxelles School of International Studies.
Il y a eu des exécutions sommaires, des raids commis sur des villageois, des enlèvements de personnes qui sont souvent d'ailleurs filmés. Un tel soupçonné d'être complice des djihadistes se fait embarquer par des chasseurs traditionnels. Ces épisodes-là se répètent quasi quotidiennement. Aujourd'hui, le ciblage est tel que il ne semble pas du tout scandaleux de parler de logique d'épuration ethnique.
Face à la dégradation de la situation sécuritaire, Antonio Guterres plaide pour une prolongation de la mission de la MINUSMA. Il lui faudra convaincre les États-Unis qui voudraient la réduire. Le secrétaire général des Nations Unies milite quant à lui pour son renforcement dans le centre du Mali, là où les risques d'exaction sont les plus importants.
Il était l'une des figures les plus respectées de la Nouvelle-Orléans. Il a fait vibrer les scènes américaines et les festivals de jazz. Le pianiste Dr. John est mort hier à l'âge de 77 ans. Il avait inventé son propre style mêlant jazz, rock'n'roll et surtout blues sur fond de culture vaudou. Dr. John a notamment reçu 6 Grammy Awards. Il avait joué avec les plus grands. On le retrouve ici en 76 dans le film The Last Waltz de Martin Scorsese avec son titre Such a Night.
Such a night. sleeping under the moonlight. Such a night, such a night.
Such a Night de Dr. John, pianiste de blues légendaire. Il avait 77 ans. Le temps sera agité, pluvieux et venteux ce vendredi en France, avec 8 départements du Grand Ouest en vigilance orange. Jusqu'en fin de journée, une tempête nommée Miguel arrive. Elle touchera tout le pays dans l'après-midi. Il pleuvra donc pour le début du mondial de foot féminin ce soir. Ce matin, comptez 13 degrés à Brest, 16 à Bordeaux, 18 à Lille et Paris, 20 degrés à Besançon, 23 à Lyon, 25 à Marseille et sur la Corse.
Merci
ce vendredi.
Beaucoup, Clara Lecoq-Réal.